Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Certes, la série des grands contemporains que Patrice Galbaud consacrait à Habib Bourguiba en 1975 peut avoir ici ou là un petit air d'hagiographie, mais on lui reconnaîtra le mérite de rappeler aujourd'hui l'histoire d'un pays auquel nous sommes étroitement liés et le destin hors du commun d'un combattant de la lutte anticoloniale, d'un homme d'État parmi les plus importants du XXe siècle. On pourra admettre aussi que l'œuvre politique du personnage justifiait la bienveillance du portrait qu'en donnait cette série. D'autant qu'elle était diffusée alors que le président Giscard d'Estaing était en voyage officiel en Tunisie. Une visite qui intervenait après qu'au début des années 70, le président Bourguiba eût évoqué un projet d'États-Unis d'Afrique du Nord rassemblant la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, et qu'il eût été question peu après de la réunion de la Libye et de la Tunisie en une seule et même République arabe islamique. Dans le troisième épisode que nous allons entendre, c'était le caractère de Habib Bourguiba qui était interrogé à travers les témoignages de son ami et militant tiers-mondiste Jean Rousse et de l'ambassadeur de Tunisie en France, Eddy Mabrouk. Le président était-il un homme à admettre la contradiction, la critique? Éprouvait-il de la rancœur pour ceux qu'il avait trahis ou abandonnés? C'étaient les questions posées dans cette émission dans laquelle Habib Bourguiba ne manquait pas de rappeler lui-même tout ce qu'il avait donné à son pays. Les grands contemporains, Habib Bourguiba, troisième des 10 épisodes, diffusé la première fois le 5 novembre 1975 sur France Culture.
Monsieur le Président, vous avez une vie tellement remplie, une destinée exceptionnelle. Comment pouvez-vous expliquer que tant de jeunes dans le monde entier trouvent la vie absurde?
Ben, parce qu'ils n'ont pas d'idéal. Il faut avoir un idéal qui en vaut la peine. Moi, j'ai lu ce qui m'a impressionné sur le buste d'Auguste Comte devant la Sorbonne, le mot d'Auguste Comte, « vivre pour autrui ». Ben, c'est la plus belle des vies, n'est-ce pas? J'ai vécu pour mon peuple, n'est-ce pas? Je n'ai rien possédé, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de champ, n'est-ce pas? Je n'ai pas de terrain, je ne possède rien que l'affection de ce peuple, n'est-ce pas? Qui n'oubliera jamais ce que je lui ai fait. Parce que ce que je lui ai fait, n'est-ce pas? Il ne l'a pas connu depuis des millénaires, depuis des siècles, n'est-ce pas? Il était gouverné par il était une province d'empire dont la capitale est à plusieurs milliers de kilomètres de la Tunisie.
Monsieur le Président, quels sont les grands fléaux de notre temps?
Ben, les grands fléaux de notre temps, c'est le désespoir, n'est-ce pas? C'est tous ces jeunes gens, n'est-ce pas, qui n'ont plus rien à aimer, n'est-ce pas? Ils n'ont aucun sujet pour se dévouer, n'est-ce pas? Alors, ils ne savent plus quoi faire, n'est-ce pas? Ils s'adonnent à la drogue, n'est-ce pas? Ils s'adonnent à toutes sortes de choses, n'est-ce pas, vilaines. Parce qu'il n'y a pas un idéal profond, n'est-ce pas, pour les faire marcher, n'est-ce pas, un idéal au profit, n'est-ce pas, des autres, vivre pour autrui, n'est-ce pas, c'est la meilleure des vies, n'est-ce pas.
Au cours de cette série d'émissions consacrée au président Bourguiba, il va y avoir, je l'ai dit, de nombreux témoignages d'hommes politiques en particulier. Mais je voudrais demander à M. Eddy Mabrouk, ambassadeur de Tunisie en France, de nous parler de M. Habib Bourguiba, personnage fascinant et qu'on ne peut pas ne pas aimer. Excellent, je voudrais vous demander s'il est possible de contrer le président Bourguiba. Cela vous est-il déjà arrivé?
Eh bien, oui. Cela ne m'est pas arrivé dans des conditions particulièrement difficiles, mais il est très aisé d'exprimer devant le président Bourguiba des vues qui ne sont pas les siennes. D'abord parce qu'il a cette excellente habitude de vous écouter, de vous laisser exprimer votre point de vue. S'il sent que ce point de vue, vous l'exprimez d'une manière loyale, sans avoir d'idées préconçues, sans avoir un plan bien en tête que vous voulez faire passer. Là, il y a toutes les chances du monde pour que les vues justifiées que vous lui exposez prévalent. Mais si, par malheur, il sent que dans l'exposé que vous lui faites, vous essayez de lui suggérer, dans un but bien précis qui n'est pas nécessairement celui de la bonne solution, alors à ce moment-là, il devient très difficile et il accepte difficilement vos vues. Je dirais même que c'est président Bourguiba offre ce grand avantage que j'ai constaté personnellement dans l'exercice des missions qu'il a bien voulu vous confier, qu'il est capable, après avoir pris une décision ou après avoir en tout cas arrêté des dispositions, de convenir que cette décision pouvait être reprise, aménagée et même complètement modifiée. Cela, je l'ai vécu personnellement. Et contrairement à ce qui peut peut-être sa personnalité, son regard, son passé, son présent, son crédit personnel, tout cela pèse dans la balance et impressionne et influence, à juste raison d'ailleurs. Mais l'on se tromperait lourdement si l'on pensait que, en se trouvant en présence du président Bourguiba, il y a lieu d'épouser tout de suite les vues dont il fait part au cours d'entretien.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une fois où vous avez été en contradiction avec le président et où vous le lui avez dit ?
Être en contradiction, ce serait peut-être trop dire, parce que je pouvais avoir des idées, je pouvais avoir des vues à exposer qui n'étaient pas dans le sens de ce qu'il pensait être les meilleures formules. Et il a fallu donc les expliquer et les soutenir. Évidemment, en sentant quelques réticences au début, c'est tout à fait normal. Ces réticences sont destinées d'ailleurs à mettre à l'épreuve ma volonté, justement, de réaliser ces solutions, si j'avais vraiment assez de souffle pour soutenir mon point de vue. Puis finalement, ça a bien marché, ça a pris la bonne direction. Non, je ne crois pas du tout que le président Bourguiba adopte des attitudes figées que l'on ne peut pas modifier. Cela est contraire à son tempérament, parce que d'abord, je ne le dis pas du tout par complaisance, vous l'imaginez bien, c'est un homme qui est foncièrement bon et qui donc n'est pas capable du tout d'imposer ses vues parce que ce sont ses vues. Il est à la recherche de la vérité. Au cours de son existence, il a appris évidemment à être prudent, à ne pas être réceptif d'une manière excessive. Il a été souvent trahi dans la lutte politique. Il a connu des difficultés, des déboires. Il a vu certains de ses compagnons le lâcher. Il a eu à surmonter des obstacles auxquels il ne s'attendait pas. Tout cela le rend un peu circonspect, évidemment. C'est ce qui explique une certaine réticence à épouser le point de vue qu'on lui expose. Mais lorsqu'il sait qu'il se trouve en présence de quelqu'un qui se présente loyalement, avec des idées tout à fait dégagées, exemptes d'arrière-pensée, la chose est facile, aisée.
Monsieur le Président, vous m'avez dit souvent qu'une de vos grandes tristesses est d'avoir été lâché en cours de route par certains de vos camarades de combat. Avez-vous tenté plus tard de récupérer ce qui vous avait lâché ?
Non, je leur ai donné du travail, n'est-ce pas ? Je ne suis pas vengé, n'est-ce pas ? La plupart sont morts, il y en a un qui reste encore, qui a été confronté avec moi devant le juge d'instruction de Grand Kela. Ben, j'en ai fait un barreau, un avocat, puis un représentant du domaine tunisien. Puis maintenant, il est à la retraite. Il m'a demandé un passeport, je lui ai accordé. Il doit avoir 70 ans, il doit avoir mon âge. Mais je ne leur ai jamais fait de mal, n'est-ce pas ? Nous sommes un des rares pays, n'est-ce pas, du monde arabe et du monde africain où il n'y a pas de putsch, n'est-ce pas, où les colonels sont dans les casernes et non pas au gouvernement, où il y a des élections, n'est-ce pas, où le président de la République est élu au suffrage universel, n'est-ce pas, où la femme, n'est-ce pas, a les mêmes droits que l'homme, où il n'y a plus la bigamie, chose qui n'existe pas dans aucun pays musulman, n'est-ce pas, où j'ai introduit, n'est-ce pas, l'adoption, n'est-ce pas, pour tous ces pauvres diables qui n'ont pas de père, n'est-ce pas, qui ne connaissent pas leur père. Je vais donner un exemple, j'ai adopté une fille, n'est-ce pas, qui a maintenant, va avoir son bachot, elle a 16 ans. Et j'ai fait ce que j'ai pu, n'est-ce pas. Maintenant, j'ai confiance, les petits pépins, n'est-ce pas, j'ai pu les surmonter, n'est-ce pas. Les pépins ont eu lieu pendant que j'étais malade, quand je croyais que j'étais fini. Maintenant que je suis guéri, n'est-ce pas, ben, j'ai pu m'en débarrasser, n'est-ce pas. Et je crois que tous ceux qui m'en sont au gouvernement sont des gens sérieux et qu'ils peuvent continuer, n'est-ce pas, même quand je n'y serai plus.
Monsieur Jean Rousse, vous connaissez très bien le président Bourguiba. Vous avez écrit un très beau livre sur lui, vous l'avez rencontré très souvent, il vous a beaucoup parlé. Et certainement, il a employé avec vous une formule qu'il emploie souvent pour parler des choses du passé. La page est tournée.
Oui, il n'est pas le seul, puisque le président Boumédienne a employé la même formule. Mais pour Bourguiba, il a toujours essayé de tourner la page. C'est d'ailleurs dans son esprit, il y a des étapes, et quand une étape est franchie, on oublie les rancœurs, on oublie les humiliations, on voit uniquement ce qu'a de positif la prochaine étape. Je pense que Bourguiba est un mélange curieux de personnage, réalisme, sentimental, homme d'esprit, homme de logique, homme de cœur. Nous en revenons à toutes les caractéristiques des Tunisiens qui tiennent des Carthaginois, qui étaient des délirants pleins de noblesse, qui tiennent des Romains, qui tiennent des Arabes et qui tiennent des Français. Il a su synthétiser toutes ces qualités et pourquoi on l'a mal compris parfois, parce qu'il avait des qualités et des défauts qui se neutralisent et qui s'opposent, n'est-ce pas ? C'était un homme complet, tout simplement, on dirait une sorte d'homme pour qui la vie n'est pas la logique pure, c'est aussi la dialectique, c'est aussi le jeu des contraires, c'est aussi la combinaison des contraires, c'est la recherche constante de l'équilibre et de la synthèse.
Cette série d'émissions, c'est évidemment un hommage que nous rendons au président Bourguiba à l'occasion de la visite officielle du président Giscard d'Estaing en Tunisie. Mais je crois que le président Bourguiba n'apprécierait pas que ce soit seulement des louanges, parce qu'il est assez autoritaire, mais il aime bien aussi la contradiction. Et vous est-il arrivé, malgré l'admiration que vous avez pour lui, de lui dire, monsieur le président, je crois que vous êtes en train de vous tromper ou de faire fausse route?
Ben oui, sans le faire très brutalement, je l'ai fait souvent. C'est-à-dire, plutôt que de critiquer de manière négative, j'exprimais la totalité de mon opinion. C'est ainsi, par exemple, à propos du procès de Ben Salah, n'est-ce pas, l'homme de la coopération qui a été condamné. Eh bien, je n'ai pas hésité à être témoin à des charges et à dire les défauts de la coopération, les erreurs de Ben Salah sont des erreurs politiques, ce ne sont pas des crimes. C'est pourquoi j'ai demandé que le tribunal, la Cour de sûreté de l'État, fasse preuve de bienveillance et d'indulgence, n'est-ce pas ? Ce n'était peut-être pas l'avis de Bourguiba à ce moment-là, n'est-ce pas ? Néanmoins, il a accepté ce conseil d'amis, si je puis dire, n'est-ce pas ? Et c'était aussi l'avis du président Mendès France, qui à ce moment-là lui-même a fait un appel aussi à l'indulgence et à la bienveillance, n'est-ce pas ? De sorte qu'on n'est pas obligé d'être complètement inconditionnel avec Bourguiba, d'autant plus que c'est un homme qui est extrêmement intelligent, il se rend compte que tout est relatif dans la vie et que la vérité d'aujourd'hui peut être l'erreur de demain. Il sait que la vie évolue, il sait que l'adversaire de hier devient souvent l'ami de demain, et l'essentiel, je crois, c'est qu'il sente chez les personnes qui le critiquent la volonté de servir un idéal commun et surtout une certaine fidélité à l'amitié qui nous unit, à cette espèce de combat commun qui nous a toujours unis contre l'oppression coloniale et qui maintenant nous unit pour une libre coopération de tous les pays du monde et même aussi pour une certaine voie socialiste. Je prends le cas du socialisme. Personnellement, mon socialisme est le socialisme d'un pays comme la France, qui a un parti socialiste, un mouvement socialiste qui existe depuis plus de 100 ans. Le Parti socialiste d'Estourien, au contraire, n'existe que depuis une dizaine d'années en tant que Parti socialiste. Par conséquent, nous n'avons pas, si je puis dire, la même voie socialiste, la même doctrine socialiste. Par conséquent, sur ce plan, nous pourrions différer d'idéologie, différer de doctrine. Néanmoins, la conciliation est possible parce que nous nous plaçons sur des plans différents. La Tunisie est un pays sous-développé. Il ne faut pas, je crois, manifester cette intransigeance sectaire et aveugle de certains gauchistes européens qui voudraient qu'elle réalisât le socialisme en quelques années, n'est-ce pas ? Et par ailleurs, ne s'aperçoivent pas qu'eux, dans leur pays, ont été incapables de faire quelque socialisme que ce soit. Par conséquent, ceci signifie qu'on peut à la fois être nuancé dans certains événements qui se produisent en Tunisie, mais en même temps, si l'on est relatif, si on se rend compte de l'état où est la Tunisie, des énormes progrès qu'elle a fait depuis que Bourguiba tient la barre, eh bien à ce moment-là, avec ce sens du relatif, on peut toujours formuler une appréciation modérée mais positive, même si l'on peut critiquer certains aspects accessoires ou secondaires, voyons. Donc je crois que cette amitié que mérite Bourguiba, cette sympathie qu'il mérite de la part de tous les socialistes et de tous les démocrates du monde, même si on n'est pas absolument toujours d'accord avec ce qui se passe en Tunisie, se trouve justifiée parce que Bourguiba, c'est avant tout un grand combat pour la justice et la liberté. Ce combat n'est pas exempt d'accidents de parcours, d'avance et de recul, mais c'est un combat qui mérite d'être salué et qui a déjà pris sa place dans l'histoire.
Chaque fois que le président Bourguiba parle de son enfance, il dit à quel point elle a été difficile, à quel point elle a été pauvre. Alors il y a une question que, évidemment, on a envie de lui poser, de lui demander si cette pauvreté, cette vie difficile, n'ont pas engendré chez lui un sentiment de révolte.
Non. Cette pauvreté crée en moi un sentiment, n'est-ce pas, de sens de la dignité, de l'honneur, parce que mon père a fait 19 ans de service militaire. C'était un officier. Je pensais surtout, n'est-ce pas, à ma situation d'être le plus petit, n'est-ce pas, le plus jeune. Je me disais, enfin, pas de chance, n'est-ce pas. J'étais un peu le domestique de tout le monde, n'est-ce pas ? J'appelais mes frères aînés Sidi, c'est-à-dire monseigneur, monsieur, pas. Et il m'arrivait parfois d'aller à l'école avec des souliers usés, troués. J'avais froid aux pieds. Vous savez, on ne mangeait pas à notre faim à cette époque, pendant la guerre. Et le directeur, M. Bollon, faisait des économies sur notre nourriture. Pour manger, on prenait, n'est-ce pas, un bout de viande, un peu de courge, pas, de l'eau. De sorte que à cet âge où le garçon a besoin, n'est-ce pas, de vitamines, n'est-ce pas, de force, pour se développer, nous étions privés. Je suis entré au mois d'octobre comme interne au collège Sadiki. Un mois et une semaine après, début de novembre, le surveillant général, M. Sourdon, est venu m'appeler pour me dire que ma mère est morte. Je suis rentré. Bastille. Je l'ai vu.
Que ce soit en classe, que ce soit au collège Sadiki, que ce soit au lycée Carnot, que ce soit à la faculté de droit à Paris, que ce soit plus tard, Habib Bourguiba a toujours travaillé. Et cette notion de travail est extrêmement importante pour lui. Il en parle toujours. Il dit aux jeunes, chaque fois qu'il leur parle à la télévision, travaillez, travaillez, travaillez. Et lors d'un discours qu'il avait prononcé à Genève, il y a quelque temps, il est revenu sur cette notion de travail d'une façon extrêmement précise et émouvante.
La petite décoration que vous voyez sur ma poitrine, c'est la médaille d'or du travail qui m'a été accordée par la grande centrale syndicale tunisienne il y a à peu près 2 ans, presque jour pour jour, faisant de moi le plus grand travailleur de Tunisie. Cela, ça a été fait par un vote unanime. Un deuxième vote unanime avait chargé le secrétaire général de l'UGTT, notre centrale syndicale, l'Union générale tunisienne du travail, M. Habib Achour, qui est, je crois, parmi nous, qui préside la délégation ouvrière de la Tunisie. Un deuxième vote unanime a demandé à M. Achour d'aller me l'épingler lui-même sur ma poitrine. À ce moment-là, je n'étais pas en Tunisie. J'étais, par un curieux hasard, en Suisse, à Genève, dans cette belle ville de Genève que je connais depuis longtemps et qui fut pendant des années, les années où j'étais un hors-la-loi, un havre de sécurité, que je n'oublierai jamais. J'étais à Genève, dans une clinique, où je me soignais depuis 5 ou 6 mois. C'est ainsi que je vais entrer dans ma petite chambrette, M. Habib Achour, accompagné du ministre des Affaires sociales de l'époque, avec cette petite décoration émanant de la centrale syndicale de Tunisie. Cette décoration m'a beaucoup ému. Ce petit ruban m'a réconforté aussi, en ce sens qu'il a diminué dans une très grande mesure certains de mes soucis, parce que j'ai parfois des soucis. J'en ai toujours eu. Mais même en Suisse, à Genève, dans une clinique, en train de me soigner, j'avais encore des soucis. Ces soucis naturels d'une poussière d'individus, d'un magma de tribus, de sous-tribus, de villages, de villes, de femmes, d'enfants, de jeunes, n'est-ce pas, tous courbés sous la résignation, l'acceptation du destin, le découragement. J'ai fait un peuple de citoyens. J'ai formé ces hommes qui sont aujourd'hui dans les postes de commandement de la Tunisie. Eh bien, après avoir réalisé ce miracle, le souci qui m'étreint parfois, c'est le sort de cette Tunisie après moi, ce que certains appellent l'après-bourguibisme. J'ai peur de ce que j'ai appelé un jour le démon des Numides, ce démon qui pousse à la désunion, aux luttes intestines, n'est-ce pas, aux rivalités, aux soft, n'est-ce pas, et qui nous a fait rater notre histoire depuis la révolte de Jugurtha jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, cette décoration venant des travailleurs de Tunisie, non seulement m'a montré que cette union nationale continue, mais m'a donné l'espoir, je dirais la certitude, qu'elle continuera après moi.
Vous venez d'entendre le troisième des 10 épisodes que Patrice Galbo consacrait à Habib Bourguiba dans son émission Les Grands Contemporains. Première diffusion le 5 novembre 1975 sur France Culture. À suivre.